parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Salut Marie.
Ça va ?
Salut toi.
Oui, ça va. Bon, c'est un épisode un peu spécial, vous allez voir pourquoi. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais sur Terre, Alex ? Qui es-tu ?
Alors, déjà, je m'appelle Alexandre, comme vous avez pu le savoir. J'ai 29 ans et je travaille dans la production de cannabis au Canada.
Dans la production de cannabis, c'est-à-dire tu fais quoi exactement ?
Mon poste, mot pour mot, c'est superviseur des salles de floraison. Je m'occupe des salles de floraison, donc à faire fleurir le cannabis pour avoir le produit fini, donc pour que les consommateurs puissent le fumer.
Donc tu fais ça au Canada, c'est ça ? Là, on est à Montréal, parce que je pense qu'il faut positionner un peu dans où on est. Le premier étonnement, c'est qu'on se dit, mince, comment t'as réussi à faire ça ? Est-ce que c'est légal au Canada ? Donc faut le savoir. Depuis quand c'est légal au Canada ? Pourquoi tu t'es retrouvé à faire ça ici ?
Alors c'est légal depuis octobre 2018. Normalement, ça aurait dû arriver un peu avant, mais vous savez comment ça se passe quand on légalise un produit qui est prohibé. Ça met quand même un peu plus de temps. Donc ils ont mis un peu plus de temps pour mettre en place toutes les lois pour qu'il soit légal, ce produit-là. Et donc je suis venu ici pour ça, pour travailler dans le cannabis, grâce à un ami à moi qui m'a conseillé et qui m'a dit le cannabis va se légaliser au Canada. Et il connaissait mes projets, donc c'est pour ça que je suis venu ici.
Je trouve ça ouf, on s'est rencontrés, nous, il y a quelques temps quand même, hein. Il y a 2 ans sûrement, ouais. C'était un été. Et quand tu m'as raconté ça dans un parc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et là, je suis content d'avoir le podcast pour pouvoir en parler, parce que ça correspond parfaitement à des métiers un peu improbables, quoi. Ça m'a paru tellement what the fuck quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, je savais même pas que c'était un métier, en fait. Tu sais, t'as toujours l'image de la vente de cannabis illégale en France ou quoi, mais tu te dis pas qu'il y a plein de métiers derrière. Il y a vraiment une technique, un savoir-faire.
Ouais.
Donc, avant qu'on parle de savoir-faire et de ce métier, t'as dit donc que tu t'es retrouvé là pour le cannabis, que t'es venu au Canada pour le cannabis.
Exact.
Toi, d'où tu viens en France et comment tu t'es retrouvé au Canada ? Quel a été tout ce parcours ?
Alors, je viens du sud de la France, plus précisément Roquevert, c'est un petit village à côté d'Aubagne, donc entre Aix et Marseille. Tout a commencé vraiment à l'âge de mes 17 ans où, comme tout jeune, on essaye des drogues. Donc, d'où le cannabis, c'est quand même une drogue douce, mais c'est quand même une drogue. J'ai commencé à fumer et la première fois où je m'en suis acheté moi personnellement, j'avais donné 30 euros à un ami à moi, et il revient avec moi, avec un petit sachet, et donc de l'herbe pas en résine, mais vraiment en fleurs. Et là, j'ouvre le sachet, j'ai dit, attends, je t'ai donné 30 euros, tu m'as donné ça. Et là, je dis, mais ça, c'est quoi? Ça vient d'une plante, ça? Il me dit, ouais, c'est du cannabis. Et tu sais, quand tu connais pas trop non plus, je fais de la résine, mais je savais pas que c'était amené d'une plante.
Ouais.
J'ai dit, attends, mais je paye un truc 30 euros que je pourrais, moi, cultiver dehors ou n'importe comment pour fumer gratuitement. Donc là, c'est vrai que je me suis un peu renseigné, merci à Google et Internet, de moi-même, de comment cultiver cette plante, etc. Et j'ai commencé petit à petit à en faire un peu dehors chez ma grand-mère parce qu'elle avait un grand espace.
Ouais.
Et ça a marché, ça a moins marché.
Et c'est quoi ça a marché, ça a moins marché,
c'est-à-dire? C'est quand même hyper complexe, donc c'est pas tu mets une graine, t'envoies un peu d'eau et t'as de l'herbe. Donc forcément, oui, tu peux en avoir, mais ça va pas forcément être de la qualité. Ou les graines, maintenant t'as des sites qui en vendent des graines qui sont féminisées, ce qu'il faut savoir sur la plante, c'est qu'il y a une plante mâle et une plante femelle. Donc il y a la plante mâle qui crée le pollen en soi, et on appelle ça le chanvre.
Okay.
Et il y a la plante femelle qui fait les fleurs, qu'on appelle ça la weed, tout simplement. Donc il y a plein de mots, weed, cannabis, parce que les gens achètent ça comme ça. Et pour savoir le but, genre en général, d'une plante, c'est que une plante, elle vit et elle meurt juste pour continuer à exister. Donc en fait, la plante va fabriquer des graines pour continuer à exister sur Terre. Donc comme tout être humain en général, où on se reproduit pour continuer à vivre sur Terre, c'est un peu le but d'une plante aussi.
Okay.
Donc le cannabis, c'est pareil.
Donc là, tu faisais ça chez ta grand-mère, des fois, bon, ça marchait pas, t'avais de la mauvaise qualité, ou même t'avais même pas de cannabis à la fin, je sais pas ce que t'avais.
Souvent, on se faisait aussi, ça vaut de l'argent, hein, donc forcément, quand t'en parles un peu trop, tu fais voler des plantes. Et ça m'arrive plusieurs fois aussi, où, tu sais, quand t'es jeune, t'as pas forcément de secret, t'es fier de ce que tu fais.
Ouais.
Genre, regarde-moi, t'as vu ce que j'ai fait, là. Et au final, t'arrives un lendemain matin pour arroser tes plantes et il y a que des trous, il y a plus de plantes.
Mais c'est fou parce que au départ, donc c'était, en fait, t'as voulu juste faciliter la vie en te disant, je vais pas payer, je vais le faire moi-même, ça va être plus pratique. Mais comment on en vient de je vais le faire moi-même, ça va être pratique, à je vais en faire mon métier. Genre, c'est devenu ta passion, le truc ?
Exact. Donc, en soi, j'ai toujours été passionné par le travail à l'extérieur. J'avais fait des petits travaux, de paysagisme chez mes parents. C'est toujours moi qui m'occupais des tomates, des aubergines, des courgettes. Donc, je pense que j'ai la main verte, ça, c'est sûr. Et j'ai toujours aimé ça. Et suite à ça, en plus, ça rebondit bien quand même avec ton sujet de podcast. Parce que j'étais totalement perdu dans mes études. J'ai fait un BTS en NRC, c'est négociation ou relation client, ouais. que j'ai raté. D'ailleurs, pas fier, mais je l'ai raté. Et j'étais totalement perdu parce que quand j'ai commencé ce BTS-là, je voyais la vente comme... j'idéalisais la vente en mode vraiment le contact avec les gens, de vendre, d'être fier de sa vente. Mais au final, j'ai pas du tout accroché à ça. Et à la fin de ces études-là, j'ai pris une année sabbatique et je savais pas du tout quoi faire. Et là, je commençais à cultiver depuis un an du cannabis. Après, j'ai quand même un peu plus investi de l'argent pour le faire chez moi en intérieur, dans mon appartement. Quand j'ai fait mon année sabbatique, j'ai eu mon propre appartement sur Aix, Aix-en-Provence. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne me mets pas dans des études dans les plantes ? Parce que ça m'intéresse tellement. Et je suis devenu vraiment autodidacte à regarder sur Internet de comment mieux cultiver sa plante et vraiment plus comprendre le côté... plus sérieux de la culture. C'est pas juste tu mets une graine, t'arroses. Là, j'essayais de comprendre de comment ça marchait la photopériode d'une plante, qu'est-ce que c'était la photosynthèse. Donc tu vois, un peu plus ciblé et pratique quand même.
Et pendant l'année sabbatique, il y avait quoi dans ta tête ? Comment ça s'est passé ? Parce que ouais, ok, tu fais une culture de cannabis à côté, mais ça ne devient pas tout de suite l'idée apparemment de te lancer là-dedans. Donc qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que t'es nul, que tu vas rater ta vie ?
Non, parce que j'ai travaillé chez comment s'appelle ce magasin ? C'est Nature et Découverte, à Aix-en-Provence d'ailleurs.
Ah, t'es toujours un peu dans.
Toujours un peu dans la nature. Donc en tant que vendeur, ça me plaisait pas mal. Mais après, je me suis posé la question : est-ce que Alex, tu vas faire ça toute ta vie ? Genre, est-ce que tu vas vraiment être heureux en faisant ça toute ta vie ? Et la réponse a été claire et assez rapide : non. Et mon père m'a toujours dit, et c'est peut-être lui qui m'a motivé à faire ça. Il m'a dit : toi, Alex, t'es tellement indulgent. Tu vas pas faire un métier qui te plaît pas. C'est pas possible. Si tu fais un métier qui te plaît pas, tu vas être triste et tu vas pas être fier de ce que tu fais et tu vas avoir honte de toi. Et il a tout à fait raison. Donc c'est vrai que quand il m'a tilté là-dessus, tu sais, quand tu fais une année sabbatique et que tu pars à tes parents, forcément tes parents ils veulent te repousser à refaire des études. Et ils vont pas te dire non, continue mon fils à rien faire. Donc quand j'ai dit que je voulais refaire un BTS du coup production horticole que j'avais trouvé à Lambesc, là mes parents étaient tout heureux, genre ok tu vas faire tes études là-dedans, tu repars sur une nouvelle voie.
Mais ils savaient que tu produisais chez toi, que t'avais tes cultures de cannabis ?
Ils savaient un peu parce que en fait j'ai commencé chez moi dans une petite armoire à vêtements que ma mère m'avait achetée. Et en fait j'ai dit que je voulais une armoire pour les vêtements, mais c'était clairement pour faire pousser du pot, du cannabis. Donc j'avais mis une petite lampe de néon 100 watts avec 4 plantes dedans. Et c'est vrai que le cannabis ça sent assez fort, même quand quand il n'y a pas de fleurs, ça sent le cannabis. Donc je pense qu'au bout de 2-3 semaines, mes parents ont vite compris qu'il y avait une odeur un peu bizarre dans ma chambre. Et quand ils ont ouvert le placard et qu'ils ont eu la lumière avec une petite aération pour pousser la plante, là ils ont dit oula mon fils qu'est-ce qu'il fait ? Il devient narcotrafiquant ? Comment ça se passe ? Et je me rappelle qu'ils m'ont appelé. Et là, j'entends ma mère et mon père au téléphone qui me disent oh, « C'est quoi ces conneries ? Tu fais quoi ? Tu deals ? T'es drogué maintenant ?» Donc, ils ne comprenaient pas trop. Mais c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un père qui est assez ouvert et qui m'a dit « Ok, écoute, j'ai convaincu ta mère. Tu fais celle-là pour ton expérience personnelle. » Mais après, c'est fini parce que là, à la maison, avec la femme de ménage, etc., ça la fout mal. Sachant que ma mère est pharmacienne et a sa pharmacie dans le village, et mon père ostéopathe a dans ce village aussi. Donc, je pense que si la femme de ménage avait commencé à parler sur tout le monde, ouais, le fils d'Hervaux, il fait pousser du cannabis, ça la fout mal.
Ok. Donc, quand tu choisis de changer, enfin, de faire des nouvelles études, ils étaient un peu, enfin, c'était, la transition était tranquille, quoi. C'était pas dérangeant que t'ailles faire.
Non, pas du tout. Surtout qu'au début, j'ai pas fait non plus ces études-là pour travailler dans le cannabis. Parce que pour moi, travailler dans le cannabis, c'était encore vraiment très utopique.
Ah, ok. En fait, tu t'es dit, j'ai la main verte.
J'ai la main verte. Ça me plaît de faire pousser du cannabis. En plus, je veux apprendre pour en faire mieux pousser encore. Donc, tant qu'à faire, autant rallier études et plaisir. Et à tout moment, je vais trouver une passion et peut-être travailler dans l'horticulture plus tard.
Ok. Et juste autour, donc il y a la famille, mais autour de toi aussi. Je sais pas si on peut mesurer ça, mais le cannabis, j'ai l'impression que c'est mal vu en France. Tu sais, c'est un peu, c'est de la drogue, c'est illégal. T'as l'impression que c'est que les hippies qui fument. Enfin, il y a des stéréotypes, je pense, sur le cannabis. Toi, t'as pas eu peur de ces stéréotypes à un moment, senti mal à l'aise par rapport à tout ça?
Ben, le cannabis était très mal vu, je dirais, il y a 10 ans. Mm-hmm. Donc, pour porter, j'ai 29 ans, donc quand j'avais mes 19 ans, je pense que c'était très mal vu de fumer. Tous les jeunes fument. Je pense que quand tu demandes en France, 70% des jeunes, ont déjà consommé du cannabis. Mais c'est quand même mal vu au niveau des parents. C'est sûr, quand tu vas dire à ton père, papa, le soir, je fume des joints, il va pas te dire, c'est bien mon fils. Donc, c'est sûr que c'est mal vu. Mais depuis ces dernières années, on a eu de la chance. Enfin, j'ai de la chance parce que moi, je travaille là-dedans et que je suis passionné là-dedans. Donc forcément, pour moi, c'est de la chance. Mais pour les gens aussi, car le cannabis a pris place dans plusieurs pays. Donc, frontalière.
C'est un gros changement en plus, c'est ça. C'est depuis combien de temps que ça a mis...
J'ai pas vraiment de date précise parce que je sais qu'au Canada, c'est dépénalisé médicalement. Donc, ça veut dire que les patients qui en ont besoin pouvaient s'en procurer grâce à des médecins. Et c'était il y a 10 ans. Donc, je dirais que c'est au moins 10-15 ans que dans le monde, ça a commencé à se développer médicalement parlant.
Donc là, c'est bon, là, tu repars faire des études. Comment ça se passe, les études?
J'ai jamais été très fort en études. J'ai été dans la moyenne. Ouais. Non, je dirais entre 10 et 14, vraiment, dans les années que je choisis un peu. J'ai toujours été comme ça. Une année oui, une année non, une année oui. J'ai jamais été un gros travailleur chez moi. J'ai plus travaillé avec mes facilités, mon écoute un peu en classe et rien de fou. Donc j'ai jamais été la fierté de mes parents par rapport à mes études. C'est clair. Même si j'ai eu mon bac laboratoire d'ailleurs, STL, donc physique. Donc j'ai toujours été un peu attiré par des choses un peu spéciales. Pas le ES ou S ou tout le monde ou L où tout le monde va. Je cherche toujours le plus compliqué. Donc là, je repars sur mes études et moi-même le premier surpris, j'étais dans les premiers de ma classe parce que j'ai trouvé une passion où j'étais au premier rang, j'écoutais tout ce qu'on me disait, je buvais toutes les paroles de mes professeurs parce que j'étais vraiment intéressé par ça. Et en fait, quand tu fais des études et qu'on t'explique des choses et que tu comprends que tu peux l'utiliser dans ta vie tous les jours, ça n'a rien à voir. Alors que quand tu fais des maths par exemple en cours, quand on te dit je sais pas, le théorème de Pythagore, même s'il y a une utilité après, quand on le voit, mais quand t'es plus jeune, tu te dis, mais ça sert à rien. Donc, pourquoi je fais ça? Et c'est vrai que là, j'ai trouvé vraiment l'utilité de toutes les matières que j'ai pu faire. Si je peux donner quelques exemples, c'est même comment nourrir une plante, comment marche la photosynthèse d'une plante, donc comment vit une plante, comment meurt une plante, comment se nourrit une plante, pourquoi, le comment. Donc, c'est toutes les questions qu'on se pose. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment éclaté dans ces études-là. Okay. Que j'ai eu au la main d'ailleurs.
Je vous coupe pour partir en impro total. Je voulais vous remercier déjà pour votre écoute et je voulais aussi vous dire que hier matin, je regardais mes notes sur Apple Podcast et j'ai vu une nouvelle note et un joli commentaire de Louise. Et ben après avoir passé tant de temps à préparer tous ces épisodes, ça m'a rendu super heureux. J'ai eu le sourire et j'ai commencé à danser dans mon salon. Voilà, vous savez tout. Alors si vous avez un appareil Apple et que vous voulez donner le sourire à une personne sur Terre, je vous encourage à faire pareil et je danserai dans mon salon. Et si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast, alors vous pouvez partager l'épisode à un proche qui veut se lancer dans la production de cannabis ou qui veut se lancer dans autre chose d'ailleurs. Pour les plus curieux, j'envoie un email tous les dimanches dans lesquels je parle de mes galères, de mes réussites avec ce podcast et je raconte des histoires pour un peu donner le sourire avant de reprendre une semaine de travail. Vous pouvez vous inscrire avec le lien en description. Encore merci. Et bonne écoute. Mais le cannabis, c'est assez précis comme plante. Est-ce que t'as appris à faire pousser du cannabis à l'école?
Non, j'ai pas appris à faire pousser du cannabis à l'école. Mais comme t'as dit, le cannabis, c'est une plante.
Ouais. Et, donc ça marche un peu. Je sais pas si elle a ses spécificités.
Quand tu fais pousser une tomate, tu comprends comment faire pousser du cannabis. Okay. Même s'il y a quand même quelques trucs qui sont spécifiques. Mais la base, tu l'as.
Ok.
Donc c'est toujours pareil. Soleil, engrais, c'est pas vraiment compliqué. Après, bien sûr qu'il y a des calculs à faire, d'amendements, de densité, enfin, si on va un peu plus dans les détails, mais ça vient par la suite.
Et donc là, t'es diplômé, tu veux faire de la production de cannabis, mais t'es en France. Donc c'est,
exact.
C'est pas
donc
possible.
Là, c'est vrai que du moment où j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, ok, là je peux travailler dans le cannabis, mais est-ce que ça va arriver? Et là, ça commençait à arriver dans quelques pays, et c'est vrai que je suis quand même assez casanier et attaché à ma région du Sud. Et là, je me suis dit, attends, mais est-ce que je vais bouger pour travailler dans le cannabis? Mon anglais, il est pas bidon, mais pas loin. Donc, j'hésitais un peu quand même. Et Et j'ai eu la chance et je les remercierai jamais autant d'avoir des parents qui sont vraiment compréhensifs et qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont vu en fait vraiment m'épanouir dans le cannabis. Parce que la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils savaient ? Donc oui, quand j'avais mon appartement à Aix-en-Provence, j'avais mes plantes et là mon père il venait, il mettait le nez dedans, waouh, ça sent bon, parce que il avait rien à dire. J'avais des très bons résultats, j'avais 16 de moyenne en BTS, j'étais parmi les premiers de ma classe. Et il disait écoutez, mon fils il s'épanouit, pourquoi pas, let's go. Surtout qu'il savait que il voyait que je fumais, parce qu'à l'époque je fumais plus maintenant d'ailleurs, enfin plus beaucoup, mais il voyait que j'étais heureux et que j'étais quand même studieux. Tout se passait bien pour moi. Donc, ils avaient rien d'autre à dire.
Je pense c'est du cannabis, c'est illégal, mais bon, c'est un outil comme là, c'est un savoir-faire.
Mais ça reste une drogue. Et je pense que, genre, quand tu vois ton fils qui reste enfermé chez lui et qui fume, forcément, t'es plus inquiet. Alors que moi, il me voyait hyper épanoui, même si je fumais un peu de temps en temps. Jamais été non plus un gros fumeur. J'ai toujours préféré la cultiver que de la fumer. Donc, ils étaient pas inquiets. Et ils m'ont poussé à faire ça, vraiment. Un ami à moi qui s'appelle Quentin d'ailleurs, que je remercie aussi de m'avoir renseigné par rapport à ça, qui était au Canada depuis déjà 2 ans lui, en PVT, donc comme nous.
Un permis vacances-travail.
Exact. Et il m'a dit, le cannabis légal au Canada, il se légalise au Canada dans un an. Donc qu'est-ce que tu fais? Il connaissait mon projet, il me dit let's go, fais tes demandes de visa, il faut que tu fasses ça, et ok. Et c'est là, je me dis, bon, vas-y, si vraiment je veux faire ça, j'ai fait mon projet, c'était ça. Et tu sais, d'avoir un projet, je trouve que c'est plus rassurant pour soi-même, parce que tu dis que tu avances dans la vie. Mais quand t'en parles aux gens, les gens me disaient, waouh, mais c'est énorme ce projet-là. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, mais j'y crois même pas.
Parce mais que c'est que ça paraît dingue, quoi.
Tu vois, tu te dis, ok, tu te vois travailler dans le cannabis. Et c'est vrai que tout le monde y croyait. Et moi, au fond de moi, je m'en aperçois maintenant que j'y croyais pas tant. Mais je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre à faire, quoi.
Hey, tu savais pas quoi faire, tu es bon.
Non, je me suis dit.
En France, de toute façon, c'était illégal.
Exact.
Donc, t'avais pas le choix, en fait.
Exact. Donc, je me lance, je fais mon visa. Et là, c'était quand même marrant parce que je me dis, j'ai 1 an pour partir. J'ai été tiré au sort, tu sais, tu reçois un mail quand t'es tiré au sort avec ton PVT. Et
ouais, juste pour les visas canadiens, en fait. Donc, tu t'inscris dans un pool, on va dire.
Ouais,
Et t'es pas sûr d'avoir ton visa.
Un bassin.
T'es pas sûr d'avoir ton visa. Et un jour, ils t'appellent et ils te disent, ouais, c'est ça, voilà. Ils t'appellent et ils te disent, bon, t'as été tiré au sort, tu peux faire la demande de visa et hop.
Exactement.
Donc là, t'as été tiré au sort et t'as 1 an pour aller sur le territoire.
Ouais, sauf que, en fait, là, je suis pas vraiment prêt à partir. Je pense que dans ma tête, c'est encore utopique et je suis pas vraiment prêt à partir pour ce projet-là. Et je suis plus dans la fête de l'été parce que c'était en plein août.
Ouais.
Donc là, tu connais, dans le sud de la France, c'est piscine, plage et fête avec tous les poteaux. Et je reçois un mail comme quoi j'ai été tiré. Sauf que je ne check pas mes mails et je m'aperçois que 1 mois après, quand je commence, tu sais, c'est la fin de l'été, donc c'est encore, tu sais, quand t'es jeune, fin des vacances, bon, on se remet dans les projets. Et là, je check mes mails et je vois que quand je me connecte sur le bassin, j'avais été tiré au sort. Sauf que c'était 10 jours pour répondre et moi c'était 1 mois après, donc c'était trop tard. Donc là, je l'annonce à mes parents pas contents, ils me disent mais attends, mais tu veux vraiment partir ou pas, parce que là, t'es en train de te saboter ton projet là. Et c'est vrai que je me remets direct dans le bassin. Je me fais pas tirer en 1 mois, 2 mois. Arrive octobre et le cannabis se légalisait l'année d'après. Donc on était en octobre 2017.
Mm-hmm.
Et le cannabis devait se légaliser normalement en février 2018.
Mm-hmm.
Ou mars, il me semble. Et là, je prends mes billets pour février. Je me dis, ok, je pars en visa tourisme 6 mois. Parce que c'est 3 mois renouvelables une fois, donc 6 mois. Je prends mes billets aller-retour. Je me dis, bah écoute, on verra ce qui se passe. Au moment où je verrai un peu comment ça se passe au Canada. Et là, en janvier, moi, un mois avant de partir, ben, je me fais tirer au sort.
Chance.
Donc, j'ai une bonne étoile.
T'as quand même été audacieux de te dire, bon, je passe tirer au sort, je vais quand même prendre mes billets.
Oui,
on verra, Inch'Allah.
Je pense qu'à ce moment-là, si j'avais pris mes billets en visa tourisme, ça m'aurait servi à rien à part connaître le Canada. Mais...
Ouais, mais il faut oser.
Oui, c'est sûr.
T'as pas de job ni rien, t'arrives, t'es en touriste, tu peux pas avoir de job en plus, donc financièrement c'est chaud.
Ben, j'avais quand même pas mal travaillé parce que je travaillais à cette époque-là pour ce projet-là.
Ah, ok, j'avais pas mal
de sous-côté. Je sais que je faisais quand même des économies pour donner une ordre d'idée. Je gagnais 1400, 1500 par mois à peu près en France et je mettais 800 euros, j'avais la chance de vivre chez mes parents.
Okay.
Et je mettais 800 euros par mois pour ce projet-là pendant 1 an. Donc forcément, j'avais le compte plein, comme on dit.
Ok. Donc là, tu t'es tiré au sort, tu prends ton avion, t'arrives ici, t'arrives à Montréal.
J'arrive ici, donc là, ben, tous les galères de PVTiste, trouver une coloc, trouver des amis, parce qu'il n'y a plus personne.
Ouais, t'as que Quentin.
Ben, Quentin n'était pas là, parce qu'il a eu des problèmes de visa, comme pas mal de gens ici, et il s'était fait expulser du Canada.
Okay,
donc j'arrive, je ne connais personne.
Ok.
Donc, tu sais, quand tu rencontres des gens pour des colocs, là, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je viens trouver dans le cannabis. Et là, j'arrive, tu regardes. Putain, mais c'est génial comme projet.
Ah, ok.
Et moi, encore, au fond de moi, je me dis, ouais, mais j'y crois pas. Mais pourtant, j'y suis. Je suis arrivé au Canada, j'y suis, ça se légalise dans quelques mois, et j'y crois toujours pas. Okay. C'est tellement utopique et tellement un rêve pour moi que j'y crois pas. Donc là, les mois se passent, je travaille en tant que paysagiste pour me faire 2-3 ronds au début. Après, dans des petites supérettes, parce que paysagiste, c'était pas vraiment fun non plus. C'est vraiment hyper physique, sous 35 degrés, c'est pas forcément agréable. Et arrive la légalisation, donc en octobre 2018. Là, je commence à m'activer au niveau des recherches. Mais c'est vrai que j'ai jamais été très fort là-dedans. Je suis plus à regarder sur Internet, sur Indeed ou des sites de recrutement. Et là, j'ai de la chance. Je vois un poste de simple horticulteur en décembre ou novembre, ouais, décembre 2018, où je postule. Donc là, l'entreprise, c'est Aurora. Donc, je pense que pas mal de gens je connaissent parce que c'est un des pionniers au Canada. Ils me répondent pas en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je dis putain, attends, j'ai quand même un bon CV. J'ai dit que j'avais cultivé pendant 7 ans chez moi, que j'avais fait mon BTS et ma licence là-dedans. J'avais quand même quelque chose, quoi. J'ai pas non plus juste une passion, c'est que j'ai du fond, quoi. Et au final, 3 semaines après, il y a un poste de superviseur qui s'ouvre, enfin de chef d'équipe. Et là, je dis bon, bah, vas-y, on postule quand même, hein, on sait jamais, on postule de partout. Et là, 2 jours après, il me contacte. Donc j'ai un premier interview, tout en anglais, parce que mon chef de culture était anglophone.
Waouh. Alors que t'as dit que tu l'anglais, t'étais pas...
Ah, j'avais 10 niveaux moyens, quoi.
Ouais,
niveau compréhension moyenne, niveau oral, bof.
Ok.
Et j'ai de la chance parce que on est quand même à Montréal, donc je rappelle, ça parle français, enfin beaucoup français. Et donc la dame des ressources humaines parle français, donc elle m'explique un peu. Moi, je parle français très lentement pour qu'il comprenne, parce que mon niveau d'anglais est vraiment pas bon à l'oral. Mais je comprends quand même ce qu'il me dit, donc ça accroche. Mais c'est vrai que quand je parle d'entretien, j'ai limite les larmes aux yeux et je me dis, laisse tomber, je n'aurai pas. Il voit un mec qui arrive et qui parle même pas un mot français, pourquoi ils vont me prendre?
Un mot anglais,
pourquoi ils vont me prendre? Et là, on me rassure, tous mes colocs, mais non, mais on est à Montréal, ça parle français. Moi, dans ma tête, c'est mort. Et là, je me dis, limite, c'est, je tombe des nues, ça fait 6 mois que je suis là, je me dis, j'ai tout fait ça pour ça. Tout ça parce que je ne suis pas assez mis dans la langue anglaise. Je vais pas l'avoir. Donc un peu déçu, et au final je rentre en décembre pour Noël, et là 2 jours après être en France, je reçois un mail de l'RH qui me dit qu'il y avait un deuxième entrevue.
Waouh.
Donc là je me dis bon,
je parle bien anglais.
Non, je me dis OK, bon, ils vont peut-être apprécier mon profil, ils veulent me voir une deuxième fois, et let's go, quoi. Donc là, je passe les fêtes en bombe, comme on dit dans le sud, parce que je crois de plus en plus à mon projet. Et c'est vrai que le fait d'y croire, ça te donne une envie et une motivation énorme, quoi. Donc là, mes parents trop fiers de moi, ouais, tu vas l'avoir. Je dis, ouais, calmez-vous quand même, on sait jamais, on verra. Et là, ils me recontactent, je fais un deuxième entretien. Et là, c'est pour en fait avoir un poste de toujours pareil, donc chef d'équipe. Et parce qu'il y avait déjà une chef d'équipe de culture en place, et elle avait besoin d'un autre chef d'équipe, donc d'un autre bras droit pour travailler là-dedans. Et par chance, elle est québécoise, et l'entretien, c'est full français. Et là, on accroche, plein de sourires, elle me pose des questions, je réponds au tac, parce que j'ai travaillé toute ma vie là-dedans, donc forcément, quand elle me pose des petites questions techniques, tu vois que en entretien, elle pose une petite question technique, elle a le petit sourire en coin, et que tu réponds en 2 secondes, et elle est là, un peu choquée, mais elle dit « Ah ouais, ça va, il est bon quand même.
» Elle arrive à répondre.
Tout se passe bien, et c'est vrai que là, je sors de l'entretien, et je me dis « Let's go, je l'ai, c'est sûr. Okay. »
Et là, tu vas l'avoir, j'imagine.
Là, je l'ai, exact. Donc, une semaine après, on me recontacte. Et là, je commence à travailler là-dedans. Et là, c'est un rêve pour moi.
Ouais, c'est ça, t'es super content, là.
J'ai cultivé 4 plantes chez moi. Et là, je me retrouve avec j'ouvre des salles de floraison où il y a 1000 plantes dedans. Je suis comme un gosse qui voit une première choupa choups à manger, tu vois. Donc, c'est fou. C'est vraiment fou.
Et tu te dis pas, mince, entre la culture chez moi et la culture dans un si grand hangar ou une salle de floraison, t'appelles ça?
C'est une salle de floraison, en effet, donc c'est comme tu peux appeler ça un hangar, et en fait c'est fermé, on met tout en place pour avoir un microclimat pour le mieux, pour la croissance de la plante, donc c'est des salles qui sont fermées, qui sont numérotées, Mais il y en avait 11 d'ailleurs pour info dans cette.
Ouais, donc ça c'est massif quoi, il y a vraiment plein de salles de floraison.
Bah une salle fait 100 mètres carrés donc faut un 1100 mètres carrés
quoi. Ouais. Et toi avant t'étais juste à faire de la petite culture chez toi, et là tu te retrouves à gérer des gens.
Exact.
Être chef d'équipe.
Ouais.
Donc tu vois, il y a quand même un écart quoi, tu t'as pas de pression là, tu te sens pas.
En fait, j'avais eu la chance aussi parce que j'avais oublié ce passage là, c'est que j'avais travaillé à Dolorama. Donc Dolorama c'est un peu le Jiffy d'ici. Ouais, le Jiffy du Canada, et j'étais chef d'équipe là-bas. Donc je gérais une petite équipe, et c'est vrai que quand ils ont vu ça, ils m'ont demandé comment je gérais une équipe. En plus, j'avais fait quand même mon BTS que j'ai pas eu, j'ai quand même appris au niveau de le management, comment parler aux gens. J'ai toujours été assez sociable manière, donc ça c'était un peu naturel chez moi. Et c'est vrai que de gérer une équipe là-dedans, d'expliquer ce que tu veux, de former, de superviser, c'est un autre monde, mais on apprend petit à petit, ouais.
Et tu sais, quand on dit que quand on est passionné à fond par quelque chose, quand on a un rêve et qu'on l'atteint, ben on est toujours un peu déçu. On est toujours un peu en mode bon, c'était ça quoi. Ça retombe énormément.
C'est pas du tout le cas pour moi. Donc ça va peut-être motiver des gens qui t'écoutent. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille dans la production de cannabis au Québec. Puis je suis toujours autant heureux de me lever le matin alors que je me lève à 6h le matin et je me réveille.
Ouais, tu travailles
les grands yeux ouverts.
Ce serait beau quoi.
Et je suis très très heureux de prendre ma voiture pour aller au travail le matin.
Ouais, donc t'es toujours aussi content quoi.
Ouais, je compte pas mes heures. Je pense que j'arrive toujours pas à croire comment j'ai pu arriver là et de faire un métier où, tu sais, quand t'es jeune, tu vas travailler des tafs comme McDo, Quick, qu'on a tous fait, que j'ai fait d'ailleurs. Tu vas au travail et tu dis merde, vas-y, faut que j'aille au travail. Et d'avoir un travail où tu te lèves le matin et tu te dis let's go faire ma journée, j'ai ça à faire, t'es hyper motivé. T'aimes avec qui tu travailles, ça, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe aussi. C'est formidable, vraiment.
Et il y a un moment là où, parce que nous, on se connaît, ouais, je l'ai dit, on se connaît depuis quelques temps. Il y a l'année dernière où il y a eu plein de licenciements massifs, à cause du Covid, dans plein d'entreprises. Toi, t'as été un peu victime de ça. Enfin, je sais pas si c'est lié au Covid ou pas, mais comment ça s'est passé l'année dernière où t'as changé d'entreprise, il me semble?
C'était pas vraiment lié au Covid. Le cannabis, c'est un marché, comme tout autre. Hyper complexe parce que c'est nouveau.
Ouais.
Et les entreprises ont mal investi leur argent, ont vu leur verre, comme on appelle ça, donc énormément d'argent que tu pouvais gagner. Donc ils ont fait énormément d'investissements, pas forcément réfléchi. En plus, tu connais le capitalisme du Canada, enfin de l'Amérique du Nord, c'était beaucoup en bourse. Ils se sont fait énormément d'argent en bourse. Donc ils se sont vus plus gros qu'ils n'étaient. Et c'est vrai qu'un an après, quand il a commencé à avoir les premiers chiffres de vente, etc., ils se sont fait un peu rappeler par. Parce que c'était une production, même si c'est de l'herbe, si t'as pas de la qualité, etc., le marché noir sera toujours ici. Enfin, il sera toujours présent. C'est ce qui s'est passé au Canada, d'ailleurs.
Okay.
De moins en moins, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, Aurora, donc la boîte où je travaillais, a fermé 5 sites de production, donc 5 petits sites de production. Ils en avaient 8, pour info. Et pour donner un détail, nous, on faisait, dans notre production à 11 salles de floraison, on faisait entre 3000 et 4000 kilos à l'année. Et le plus gros site d'Aurora, il faisait 500 000 kilos. Donc, tu imagines que nous, on était vraiment une poussière dans l'industrie d'Aurora, même si nous, on servait plus les patients médicaux, parce que c'était vraiment du craft, c'était vraiment du cannabis de qualité, alors que c'est vraiment du cannabis industriel, juste pour en avoir, parce que le marché en demandait. Il y avait plus de demandes que d'offres, et on devait produire du cannabis. Ils ont trop investi là-dedans, quoi.
Mais c'est, donc t'as changé d'entreprise, mais t'es monté en grade aussi, non? C'est ça?
Ça qui est cool aussi. J'ai été au chômage, avant que ça ferme, mon chef est parti, donc on avait encore 4 mois d'ouvrage, et je pense que j'ai été remercié par mon travail et mon sérieux, parce que mon ancien chef m'a promu, donc j'ai eu le poste de mon chef, donc c'est chef de culture, donc en fait j'avais 24-25 personnes sous mes ordres.
Ah, c'est incroyable quand même.
Oui, bah, c'est vrai que quand t'arrives à 28, j'avais 28 ans, donc tu te dis, ouais, t'as quand même 24 personnes sous tes ordres.
Ouais, c'est cool.
Que ce soit la récolte, donc les gens qui s'occupent de couper les fleurs, et la culture, donc les gens qui s'occupent de faire les boutures, s'occuper des plantes mères. Donc les plantes mères, c'est des grosses plantes qu'on garde en phase végétative pour faire des boutures, pour peupler nos salles de floraison. Et les gens qui travaillent aussi dans les salles de floraison, qui s'occupent d'enlever les feuilles, déplacer les plantes, nettoyer les plantes, etc.
Okay.
Donc là, j'arrive à ce poste-là, Et je suis quand même assez assez content parce que tu en quelques mois, enfin en quelques années, ça faisait 2 ans que j'étais là-bas, j'évolue quand même pas mal, je me plais toujours autant dans cette industrie et j'apprends parce que entre 4 plantes et 1000 plantes comme je t'ai dit, c'est pas la même organisation.
Ouais.
Et... Donc il y a eu le chômage là, pour en venir à la question que tu m'as dit, il y a eu le chômage pendant j'ai arrêté en septembre 2020. Ouais. On est en 2022, oui, c'est ça.
C'est ça, c'était 2020.
Et j'ai trouvé ma nouvelle compagnie, là, en janvier 2021. Donc, au début, c'était en tant que consultant. Je comprends pas trop pourquoi on me prend en tant que consultant alors que j'ai jamais été consultant de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai des connaissances là-dedans. Et en fait, c'est juste une compagnie qui existe là depuis 2 ans où ils ont réinvesti de l'argent là-dedans parce qu'ils veulent être plus importants sur le marché du Québec, enfin, le marché du cannabis. Tout est en reconstruction, donc j'arrive à faire ma place. Au final, je suis promu en tant que chef de, enfin, l'intitulé exact, c'est superviseur des salles de floraison.
Okay.
Donc en fait, je fais la supervision des gens et c'est moi qui m'occupe de toutes les salles de floraison.
Ok. Et donc, juste le métier, tu fais quoi tous les jours? Comment ça se... C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ces salles-là?
Bah, une journée type, déjà, il faut savoir que toute l'irrigation est automatisée, donc par des systèmes avec ton ordinateur. Donc on a des logiciels pour lancer les irrigations, pour pouvoir checker les températures, l'humidité. Donc on a des alarmes par rapport à ça. Tout ce qui est électronique ou autre, on a des problèmes. Donc quand t'as des systèmes de ventilation qui lâchent, forcément les températures dans la salle, elles augmentent. Donc il faut être présent H24 pour répondre aux appels, pour vite se connecter sur l'ordinateur, pour changer les systèmes ou éteindre les lumières carrément parce que les températures sont trop hautes. Et une journée type, c'est-à-dire que je m'occupe de mes salles de floraison, donc je fais le tour de toutes mes salles de floraison, je check si toutes mes salles ont eu l'irrigation que j'ai souhaité, donc tant de millilitres ou litres, ça dépend de la taille des plantes. Et ensuite, après ça, je dois respecter tout le schedule, enfin tout la planification du culture de mon boss. Et c'est à moi de prendre l'équipe en charge pour les mettre dans les salles de culture dédiées où il y a des travaux à faire. Je supervise, je forme et surtout je double check le travail qui a été fait.
Pour justement, il y a quoi? Ils font quoi parmi les travaux qu'ils doivent faire ces gens?
En soi, il y a des salles de floraison,
ouais,
et il y a des salles de végétation.
Okay.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper compliqué, mais le cannabis, c'est une plante qui marche avec la photopériode. C'est-à-dire qu'à 18h lumière, elle reste en phase de végétation. Et à 12h de lumière, elle passe en phase de floraison. Donc okay. En phase de floraison, c'est là où t'as à peu près, je dirais, 2 mois, on va dire une moyenne, 2 mois où la plante se met à fleurir et à être coupée pour qu'on puisse récolter les fleurs.
Ok, d'accord.
Donc eux, ils font des feuillages, donc enlever des feuilles pour faire passer un peu plus de lumière, déplacer les plantes des salles de végétation aux salles de floraison, checker si les plantes n'ont pas de maladie, donc ils passent dans les rangs, ils regardent les feuilles pour voir s'il n'y a pas des carences, des maladies, même si moi aussi je le fais ça. Beaucoup de nettoyage, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ici c'est hyper réglementé. Il y a Santé Canada qui nous fait des visites régulièrement pour savoir si on cultive dans les normes, donc dans toutes les règles qui ont été imposées.
C'est strict, j'imagine.
C'est hyper strict. C'est hyper strict. Donc c'est considéré comme un laboratoire, donc tout est clean. Je peux te donner une ordre d'idée, pendant la récolte, s'il y a une bud, donc une fleur, qui tombe sur la table, à terre ou autre part, on la jette. On ne peut pas, la faire sécher pour la vendre.
Ok, ouais, c'est vraiment réglementé.
Donc c'est hyper réglementé, oui.
Ouais, juste comment ça fonctionne au Canada, bon, je sais un peu, mais je vais te laisser répondre. Qui a le droit de vendre du cannabis? Comment ça se passe après la revente, quand vous avez fini de... Vous vous vendez à qui, en fait, tout simplement?
Donc, au Québec, après, je pense que des gens qui sont venus au Québec le savent, mais il y a la SAQ qui gère toute la vente de l'alcool. Donc, c'est Société d'alcool québécoise, si je ne me trompe pas. Oui,
c'est ça, je pense. Hein.
Et après, il y a la SQDC, donc c'est Société québécoise de cannabis. Donc, le Québec a géré la vente de A à Z du cannabis, donc les taxes, les ventes, et c'est eux qui choisissent les producteurs à qui ils achètent pour pouvoir revendre. Donc après, ils ont ouvert des succursales SQDC pour vendre du cannabis, où il y a des conseillers qui vont vous conseiller peut-être. Vous savez, les fumeurs, il n'y a pas que des fumeurs qui connaissent absolument tout. Il y a peut-être des gens qui veulent commencer pour un peu se détendre, etc. Donc il y a des gens qui sont là pour conseiller quoi prendre et surtout pas avoir une une mauvaise première expérience.
Mais justement, il y a quoi dans ce... Je suis pas du tout, moi, un fumeur de cannabis, mais c'est quoi conseiller, c'est quoi... Comment c'est... Il y a quoi dans la feuille du cannabis?
Dans la fleur.
La fleur, pardon.
La feuille ne se fume pas. Donc la fleur de cannabis, donc c'est le, ce qui intéresse les gens, c'est le THC. Donc c'est la molécule qui est créée par la plante.
Ouais.
Donc le THC, qui a un pourcentage. Donc plus il est haut, plus il va avoir un effet psychotrope. De chaque personne réagit différemment.
Mais en salle de culture, tu contrôles ce THC, cette comment?
Ben il y a des techniques que moi j'ai su apprendre avec des gens qui sont là, qui cultivent ça depuis 35 ans ici, parce que c'est vrai qu'ici c'était beaucoup plus développé qu'en France. Ouais. Il y a des gens qui font ça dans le black market, donc dans le marché noir, depuis 35 ans et qui ont appris de cette plante là. Il y a des techniques pour développer au maximum les cannabinoïdes. Donc, le THC et il y a le CBD. CBD, tu sais, c'est le cannabinoïde un peu plus relax, qui n'a pas d'effet psychotrope et plus un effet médical par rapport au THC.
Donc, selon comment tu cultives la plante, une même plante, selon comment tu la cultives, elle va donner plus de THC ou plus de CBD?
C'est le CBD, mais ça, c'est plus par rapport aux souches. En fait, il y a des plantes qui ont eu... Maintenant, toutes les plantes ont eu des croisements, si on peut faire ça simple. Et il y a des plantes qui sont amènes à donner... des THC assez hauts, mais pour les donner assez hauts, il faut quand même des techniques de culture spécifiques pour arriver à taper ces hauts scores de THC. Et il y a des plantes, des variétés, on appelle ça, qui sont médicales et qui vont être plus CBD, donc le vraiment la molécule médicale.
Ouais.
Et là, il y aura peut-être des taux faibles en THC, voire quasiment inexistants, peut-être à 0,5% pour donner une ordre d'idée, et avec des taux plus hauts en CBD pour les patients médicaux.
Ok, d'accord. Et tu parlais du black market tout à l'heure, du marché noir, qui est là depuis 35 ans. Enfin, les gens qui sont là-dedans ont beaucoup d'expérience.
Exact.
Alors que la SQDC, enfin, la vente de cannabis par l'État canadien, c'est tout neuf, c'est tout nouveau.
Ouais.
Est-ce que finalement, ils sont pas plus expérimentés, les gars qui sont là depuis 35 ans, ils font pas de la meilleure qualité que...
Ben, ça dépend, parce que le black market, c'était toujours l'offre et la demande, comme tout produit que tu vends. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc forcément, même si tu faisais un cannabis qui était pas top en qualité, qui était à peu près bon, mais pas forcément haut en THC, parce que tu pouvais pas le... Il ne testait pas à l'époque, alors que maintenant, chaque lot qu'on vend est testé, et il y a un sampling sur la boîte en te disant le taux de THC hyper précis. Donc forcément, là, tu sais ce que tu cultives et tu sais si tu l'as bien cultivé ou pas. Donc là, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ce que j'ai pu m'apercevoir dans le marché-là, c'est qu'il y a des gens qui pensent savoir cultiver, mais qui n'ont pas vraiment de connaissances là-dedans. C'est plus un feeling. Ils n'utilisent pas leur étude. Certains ont fait des études comme moi et on n'utilise pas l'acquis des études, la physiologie de la plante pour comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vrai que là, maintenant que ça fait 3 ans que je suis là, je comprends le pourquoi du comment, pourquoi la plante réagit comme ça, comment elle fait ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Et chaque jour, on en apprend. C'est ça qui est génial.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le marché noir a baissé? Est-ce qu'il y a plus de ventes sur le marché légal, entre guillemets?
J'ai pas vraiment de chiffres exacts. Après, de ce que j'ai pu lire de tous les articles du cannabis là-dedans, c'est que au début, le marché noir a quand même bien baissé. Mais c'est vrai que les produits qui ont été vendus par la SQDC au début n'étaient pas à l'attente au niveau qualitatif. Et quantitatif aussi, parce que les prix étaient quand même assez chers par rapport au marché noir. Okay. Donc le marché noir a repris le dessus là-dessus.
Okay.
Et là, maintenant que les producteurs ont compris que pour vendre, il fallait peut-être un peu baisser les prix, mais aussi augmenter la qualité, je pense que ça s'est équilibré, où je dirais qu'il y a encore, 30-40% du marché noir dans le cannabis.
Ouais, donc il y a encore quand même beaucoup de marché noir.
Du moins au Québec.
Okay. Quand même beaucoup de marché noir.
Exact.
Et toi, comment tu vois la suite? Est-ce que j'imagine que le cannabis va être légalisé de plus en plus d'endroits? Moi, en fait, je vois ça comme la ruée vers l'or, c'est le cannabis. J'ai l'impression que ça va être légalisé de plus en plus dans plus en plus d'endroits.
Oui, parce que quand tu peux voir que tous les pays frontaliers à la France, presque, sont dépénalisés ou décriminalisés, comme le Portugal, où toutes les drogues sont décriminalisées. Ouais. On peut voir en Espagne, il y a des genres de coffee shop, mais qu'ils ont mis ça en cannabis social club, donc à but non lucratif. C'est des sociétés à but non lucratif. Donc oui, ça va arriver. Et après, c'est vrai que un projet emmène un deuxième. Et là, mon projet de venir ici au Canada, c'était d'apprendre déjà de commencer à travailler dans ce que je voulais comme rêve, que je voyais comme rêve, de continuer à apprendre, parce que ça a rien à voir que quand tu fais quatre plantes chez toi, et entre gérer des personnes et gérer 1000 plantes et gérer 20 salles de floraison. Là, le but, c'est que ça se dépénalise en France, au moins médical, ça j'y crois, et que je revienne en France avec mon expérience.
Donc c'est quoi le prochain rêve? Créer ton entreprise de cannabis
Je sais pas si c'est créer mon entreprise de cannabis ou peut-être continuer pour travailler pour quelqu'un, parce que ouvrir une production de cannabis, c'est quand même très coûteux. Bon, après, forcément, il y a des crédits, on peut faire des crédits, etc. Mais ça demande énormément d'argent.
J'imagine. Il y a tout le dispositif, toutes les salles de culture,
toutes les lumières,
tout est informatique.
Tout est informatique, exact. Enfin, ou plus ou moins. Mais toutes les lumières, les tables de culture, les systèmes d'air conditionné, parce que c'est en circuit fermé en fait. Le CO2 que tu vas apporter là-dedans. C'est très coûteux.
Mais d'ailleurs, c'est des grosses boîtes qui doivent se lancer là-dedans. Il y a combien d'entreprises qui font ça au Canada? Est-ce que c'est simple de.
Au Canada, je pourrais pas te dire le chiffre. Ouais. Je sais qu'autour de Montréal, je dirais qu'il y a entre 5 et 7 compagnies qui sont vraiment autour de Montréal. J'ai entre 50 km de Montréal.
Mais donc un jeune Français ou même un jeune Québécois qui veut se lancer là-dedans et qui veut travailler là-dedans, tu penses qu'il y a quand même pas mal d'emplois encore, que c'est...
Oui, bah, d'ailleurs, en ce moment, on est en train d'ouvrir 4 postes de journaliers en horticole, donc l'équipe d'horticulture. Il y a de la place, oui, exact.
Ouais, parce que je me demande, je me dis, si c'est vraiment la rue vers l'or, il y a plein de gens qui doivent se lancer là-dedans. En plus, ça rapporte mieux que le reste que le...
Ben, c'est vrai que genre je pense que si tu fais pousser des carottes et des tomates, tu seras moins payé que quand tu fais pousser du cannabis.
Ouais, mais ça doit être connu, ça, parmi les gens que ça intéresse.
Oui.
Donc ils doivent tous se lancer là-dedans. Tout le monde doit vouloir travailler dans le production de cannabis.
Pas vraiment, parce que en fait il y a des gens qui sont moins passionnés mais qui voient ça plus l'aspect monétaire, donc ils vont se lancer là-dedans et qu'on fait des études en horticulture. Et après, des gens comme moi qu'on fait des études en horticulture, pardon, qui sont hyper passionnés par le cannabis, et en plus de ça, ça gagne bien. Donc là, c'est jackpot.
Et je t'ai pas posé la question depuis le départ, mais c'est quoi qui te passionne tant dans le cannabis, en fait? Parce qu'au début, c'était pour payer moins cher. Enfin, en fait, pour payer quasiment rien. Mais depuis tard, c'est la question qui me vient, je me dis, mais pourquoi le cannabis?
Ce qui m'a surpris le plus, parce que j'ai toujours été, comme je t'ai dit, paysan dans l'âme, donc avec des tomates, etc. C'est la croissance de cette plante, la rapidité à se développer. Si tu pars d'une graine, en 3 mois, t'as une plante qui peut faire, on va dire, 1m50.
Donc c'est la rapidité de floraison qui t'a...
Pas de croissance en général, parce que du moment où t'envoies la graine, vu que c'est une mauvaise herbe, une mauvaise herbe, si tu lui donnes toutes les conditions idéales pour pousser, donc de la lumière, du CO2, peut-être pas quand t'es chez toi, mais du CO2 et de l'eau et de l'engrais, donc le principe de la photosynthèse, elle se développe à une vitesse, c'est fou.
C'est ça qui t'a passionné sur le cannabis.
D'une graine à tu passes à 3 mois et tu passes à une plante qui fait ta taille, deux fois ta largeur et qui produit des fleurs que tout le monde raffole.
C'est quand même ouf de se dire que.
Et en plus elle est magnifique la plante. Ouais. Faut l'avouer.
Ouais, elle est belle, on la voit en plus.
Et ça brille, les fleurs brillent, c'est les trichomes qui brillent. D'ailleurs c'est là où il y a le THC.
Donc les trichomes, c'est quoi? C'est les trois.
Non, t'as vraiment les fleurs, donc la bud.
Ouais.
Et en fait, t'as les trichomes, c'est une excroissance, sur la fleur, qui va créer la molécule du THC.
Okay.
Et d'ailleurs, ces molécules-là, pour la plante, elle est créée par la plante pour se protéger des ravageurs. Donc, toutes les bestioles.
Attends, c'est quoi qui protège des ravageurs? J'ai pas bien compris.
Les trichomes.
Les trichomes. Ouais, trichomes, c'est fait. Donc, là où il y a le THC. Ok, donc le THC, en fait, à la base, c'est dans un truc qui est fait aussi pour se protéger du reste, quoi.
Exact, ouais. Et se protéger aussi des ultraviolets du soleil quand c'est trop intense.
Ok. Donc, c'est quand même fou, là.
C'est vrai, quand tu comprends, tu vois, pourquoi la plante fait ça.
Ouais.
C'est merveilleux, quoi.
Mais je suis content de te parler, parce que, même de t'avoir rencontré. Parce que moi, j'avais plutôt une mauvaise image, du cannabis, ou... T'évolues forcément, même toi, t'as dû évoluer dans un environnement où on te dit que c'est mal, où t'as l'impression que, je disais au début, un truc de hippie, un peu un truc de gens marginalisés. Et la façon dont t'en parles, j'ai l'impression que je parle d'une œuvre d'art. Et puis c'est cool de te voir que t'as commencé avec, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui ressortent, il y a de l'audace qui ressort de ton parcours, je trouve ça beau de se dire que t'as commencé, vraiment, t'étais passionné par le truc, quoi, tu voulais le faire grandir, tu voulais travailler dessus, c'était pas juste le fumer au final. C'était, comprendre cette plante.
Ouais, ouais, exact, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à la cultiver et que j'ai commencé à le faire chez moi et j'ai commencé à produire de qualité, des produits de qualité, pardon, bah, j'étais heureux, mes potes aussi étaient heureux de fumer de l'herbe de qualité, et c'est vrai que j'étais assez fier de voir quand les gens ils me disaient waouh mec, t'as cultivé ça, genre elle est trop bonne, nanana, et tu sais, ça te donne une fierté, et j'ai ce projet là depuis mes 20 ans, enfin ouais, je dirais 20-21 quand j'ai commencé mes études là-dedans. Là j'en ai 29, et c'est vrai que tu sais, quand tu y penses, j'y pense pas souvent, mais quand tu y penses, je suis très fier de mon parcours, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de travailler dans ce qu'il aime. Et comme j'ai dit tout à l'heure, encore mes parents qui m'ont poussé, parce que j'avais des peurs aussi de partir de la France et de mon sud.
Mais c'est quoi tes peurs, justement, les peurs de... Parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est quoi tes
peurs? T'es loin de ta famille, t'es loin de ton confort, t'es loin de tes amis, tu te retrouves seul, je suis arrivé, je connaissais personne, je suis sociable, mais quand t'es loin de tout, c'est compliqué quand même.
Ouais.
Ben, je pense que toi, t'es arrivé, je pense, avec ta copine, donc c'est plus facile.
Ouais, nous, on était deux, c'était plus simple. Après, je suis déjà parti, en fait, ouais, j'ai appris à partir, je suis parti 6 mois, je revenais, je partais 6 mois. Donc ça m'a aidé un peu, ouais, à m'habituer, ça m'a aidé à m'habituer à vivre, ouais, loin de la famille, c'est plus dur.
Mais après, j'étais parti en Thaïlande aussi, Thaïlande, Malaisie, que j'avais fait pendant un mois et demi, ouais. Et c'est vrai que j'ai apprécié le voyage, et là je me suis dit, waouh, mais bon, entre voyager
et vivre,
et kiffer, et vivre dans un pays,
et chercher un job,
c'est différent, ouais, voilà, c'est différent.
Et il y a deux questions que je pose toujours à la fin de mes rencontres. La première, c'est quel conseil tu te donnes à toi-même pour le futur?
Ben, je pense que j'en ai quand même assez parlé, et je me répète un peu, c'est que je croyais pas à mes projets.
Ouais.
Et c'est vrai que là, maintenant que je suis arrivé, j'ai la consécration de tous les efforts que j'ai fait.
Ouais, t'as atteint ton objectif.
Oui. Maintenant, c'est de croire qu'en France, ça va se dépénaliser, et de croire en mon projet, peut-être de créer ma boîte, et de croire en moi là-dessus, ouais.
Ok. Donc, vraiment croire en soi-même.
Ouais.
Et la deuxième question, c'est les trois valeurs d'Alexandre. C'est quoi les trois valeurs un peu qui guident ta vie, ton parcours?
Waouh, trois valeurs. Persévérance, parce que j'en ai quand même assez bavé.
Ouais.
La motivation, c'est le plus important aussi. Je sais pas, c'est quand même une valeur. Et la troisième, je dirais, et le travail. Parce que là, je suis motivé et que je suis passionné dans ce que je fais. Et c'est vrai que tous mes employeurs là voient le travail que je fais, et je suis très très bien remercié. Et j'ai évolué en grade grâce à mon travail.
Mais c'est marrant, tu dis que t'es sérieux, et moi je te connais aussi en dehors du podcast, en dehors de ton métier. Et t'es quelqu'un, tu sais, de blagueur, souriant, un peu souvent dans la blague. Et quand je te vois parler de ton travail, j'ai l'impression que tu deviens quelqu'un d'autre, quoi. C'est assez incroyable.
Bah après, je pense comme tout le monde, tu vois. Quand je te
vois. Ouais, mais ça se voit que t'es vraiment passionné, quoi.
Ah ouais, oui, bah.
T'es sérieux sur ton sujet.
J'espère que les gens le verront, parce que c'est vraiment une passion. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours préféré la cultiver. Que de la fumée. Ouais. Pour preuve, je ne fume plus, ou très rarement maintenant, alors qu'avant je fumais quand même pas mal.
Et pourquoi tu t'es arrêté de fumer?
Je pense que les gens se reconnaîtront aussi s'il y en a pareil que moi, mais c'est vrai que c'est quand même une drogue qui est assez puissante, et c'est vrai que le THC me fait plus des crises de panique, d'anxiété, je suis pas très bien. Mm-hmm. Et en plus, je me suis un peu rattrapé sur le CBD, où maintenant je fume du CBD, je retrouve le goût que j'ai de fumer l'herbe, parce que j'aime le goût, j'aime effriter, j'aime voir ma tête dans mon grinder, c'est la chose pour effriter l'herbe, rouler mon joint et fumer, et le goût, mais c'est vrai que j'aimais plus du tout la défense.
Okay.
Donc ça me rendait vraiment anxieux.
Okay. Très bien. En tout cas, motivation, persévérance, travail,
ouais,
c'est les trois valeurs qui ont guidé toute la rencontre. Donc merci beaucoup Alex.
Merci à toi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.